Chapitre 8. À peine Mademoiselle Moulinet eut-elle disparu que Claire, se levant d'un bond, s'élança sur la baronne et, les yeux étincelants d'une rage qu'elle n'avait plus besoin de contenir, « Tu le savais, toi, qu'il allait se marier » s'écria-t-elle. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Et comme Madame de Préfond restait interdite, « Trahie, délaissée !» reprit avec éclat Mademoiselle de Beaulieu en tordant ses belles mains dans un paroxysme de désespoir fou. « Pour elle, pour cette fille, et vous m'avez laissé la prendre de sa bouche, elle a pu librement me porter un pareil coup, mais vous étiez donc ses complices, il n'en est donc pas un seul parmi vous qui m'aime, et lui, lui, pour de l'argent, le misérable !» Bouleversée par le spectacle de cette douleur débordante et furieuse, la baronne voulut essayer de calmer son amie. « Par grâce, Claire, dit-elle, tu me fais peur !» Mais Mademoiselle de Beaulieu n'était plus en possession d'elle-même. La violence de son caractère, si longtemps maîtrisée, s'épanchait sans que rien pût l'arrêter. Tous les efforts qu'elle avait faits pendant cet horrible entretien lui semblèrent avoir été autant de lâches défaillances. Elle se demanda avec stupeur comment elle avait pu ne pas jeter à la face de celle qui s'était si impudemment jouée de ses tortures toutes les insultes qui lui montaient maintenant aux lèvres. Elle regretta de ne pas l'avoir frappée et meurtrie. Elle eut des cris de plébéienne exaspérée à qui on vient de voler son amant, une fureur de femme dégagée de toutes les entraves, des convenances et trépignant, enfiévrée, sourde aux conseils de la raison. Le sang des grands barons, ayant droit de haute et basse justice, bouillonna dans les veines de Mademoiselle de Beaulieu. Elle rêva de supplices infamants et cruels pour sa rivale. Mais le sentiment de son impuissance la terrassa de nouveau. Elle comprit que toutes ses espérances étaient à jamais perdues et que tout espoir de revanche lui était interdit. Ses nerfs se détendirent brusquement et, le visage inondé de larmes, avec d'horribles sanglots, elle se laissa tomber dans les bras de la baronne en balbutiant « Ah, que je suis malheureuse ! Que je suis malheureuse !» Madame de Préfond, désolée, la pressa sur sa poitrine, appuya doucement sa tête alourdie sur son épaule et, lui parlant ce doux langage que les mères adressent aux enfants pour apaiser leur chagrin et endormir leurs souffrances, elle s'efforça de ramener un peu de calme dans ce cœur ulcéré. Claire pleura désespérément. Les larmes entraînèrent le venin dont Athénaïs avait infecté la plaie et en adoucirent les cuisantes douleurs. Mademoiselle de Beaulieu se retrouva elle-même et rougit de s'être abaissée à un tel excès d'emportement. Elle voulut dominer sa triste situation et, par un suprême effort de son orgueil, elle y réussit. Sa mère, en arrivant dans le salon, terrifiée par une naïve confidence que Moulinet venait de lui faire, la trouva, sinon résignée, la résignation lui était impossible, au moins courageuse et digne. La marquise, suffoquée autant par l'émotion qu'elle venait d'éprouver que par la rapidité avec laquelle elle avait gravi le perron, resta abasourdie devant Claire encore livide et tremblante. Puis, ayant cherché une phrase que dans son trouble elle ne trouva pas, elle se jeta dans les bras de sa fille en gémissant « Ah, mon Dieu, ma pauvre enfant !»« Vous savez, ma mère !» interrogea Claire, dans les yeux de laquelle quelques larmes reparurent. Le père, à l'instant, m'a tout appris. Et quand je pense, s'écria la marquise en levant les bras au ciel avec indignation, que c'est toi qui, pour ne pas leur faire une impolitesse, as voulu qu'on les reçût. J'en suis bien récompensée, n'est-il pas vrai? Fit Claire avec amertume. J'ai été bien imprudente. J'aurais dû me garer de cette personne avec soin. Je connaissais si bien ses sentiments à mon égard. Si nous lui avons fait autrefois subir des humiliations, comme elle se venge! Elle n'a jamais pardonné. Elle a attendu l'heure propice, s'est attaquée à la plus heureuse de ses anciennes compagnes et l'a frappée au cœur. Elle a brisé ma vie. L'abandon dont je suis victime pèsera toujours sur moi. Et si, après l'humiliation qui m'atteint, j'étais assez folle pour penser à me marier, qui donc voudrait de moi maintenant ?» Comment qui ? S'écria la marquise avec vivacité. Mais tous ceux qui auront des yeux pour te voir et des oreilles pour t'entendre. Ma chère enfant, si quelqu'un est atteint en cette circonstance, ce n'est pas toi, c'est le duc. Et s'il te plaît de te marier, grâce au ciel, tu n'auras que l'embarras du choix dans notre monde et ailleurs. Une fille comme Mademoiselle de Beaulieu ne manque point d'épouseur. Il n'y a pas 6 mois, j'ai dû décliner les ouvertures qui m'ont été faites par des familles très honorables. Et certainement, les gens qui te demandaient alors ont été trop malheureux de se voir éconduits pour avoir si promptement changé d'avis. Claire fit un geste de découragement. « Après le duc de Bligny, ma mère, je n'ai le droit d'épouser qu'un homme qui sera en tout supérieur à lui ou qu'un homme que je pourrais paraître aimer. Ma seule justification possible aux yeux du monde sera dans la grandeur ou dans l'entraînement de mon choix. Mais, ma mère, vous savez bien que c'est impossible et qu'une fille telle que moi, après une pareille déception, n'épouse que le couvent. » « Allons, mon enfant, dit la marquise avec douceur, tu déraisonnes. Le couvent ? Eh bien, et nous ? Non, tu es trop jeune pour avoir le droit de désespérer. Tu as trop de qualités morales et trop de beauté pour que l'avenir ne te garde pas de sur-revanche. Enfin, si tu veux le savoir, il y a tout près d'ici quelqu'un qui accepterait ta main à genoux. » Mademoiselle de Beaulieu releva ses fiers sourcils et, se tournant vers sa mère, « Monsieur d'Herblay ? Dit-elle simplement. Monsieur d'Herblay, oui, répondit la marquise, et je ne te parle de lui que pour rassurer ton esprit. Qui pourra t'approcher sans t'aimer? Veux-tu que nous repartions pour Paris? Veux-tu aller en Suisse avec monsieur et madame de Préfond? Parle, je suis prête à tout ce qui pourra te satisfaire et te consoler. Que désires-tu? Ah, le sais-je, s'écria Claire avec abandon. Je voudrais disparaître en un instant, fuir les autres et moi-même. J'ai tout en haine et en mépris. Hélas, que ne puis-je mourir ? La mort, ma chère enfant, voilà le seul mal auquel il n'y ait pas de remède. Si toutes les femmes qui ont été abandonnées par leur fiancé ou leur mari mouraient, mais le monde serait dépeuplé. Il n'y a presque pas d'hommes fidèles, vois-tu bien ? Et quand ce n'est pas avant qu'ils vous trompent, c'est après. Comme si, en parlant de l'infidélité des hommes, la marquise eût invoqué l'infidèle même qui venait de faire pousser tant de soupirs et de faire couler tant de larmes, le bruit d'un galop furieux retentit soudain, et par la grille restée ouverte, le duc de Bligny, sur un cheval blanc d'écume, entra dans la cour. En un instant, il fut à terre, et, jetant sa bride aux mains d'un domestique stupéfait, il gravit 4 à 4 les marches du perron, et il allait, sans rien demander à personne, entrer tout droit dans le salon, quand le baron et Bachelin, qui, sans s'être concertés, accouraient, l'arrêtèrent dans le vestibule. Pâle, les traits contractés, le duc ne se laissa pas barrer le chemin sans résistance. « Monsieur et Mademoiselle Moulinet, sont-ils encore ici ? » demanda-t-il d'une voix altérée. Et comme le baron répondait affirmativement, « Ma tante, il faut que je voie la marquise sur le champ. Peut-être n'est-il pas trop tard. » « Détrompez-vous, mon cher, répondit gravement le baron, comprenant les motifs de la précipitation avec laquelle le duc avait agi. « Il est trop tard. Monsieur et Mademoiselle Moulinet ont parlé. » Le duc laissa échapper un profond soupir et, se laissant tomber sur une des hautes banquettes sculptées du vestibule, il regarda avec affliction les deux hommes et dit « Que puis-je faire maintenant pour réparer le mal qui a été fait ?» « Ce mal est hélas irréparable, monsieur le duc, répondit Bachelin d'un ton de respectueux reproche. Et le mieux que vous puissiez faire maintenant est de repartir sans chercher à voir madame de Beaulieu. » « C'est à quoi je ne consentirai jamais, s'écria vivement le duc en se levant. Je ne puis rester sous le coup du blâme que ma tante a dû jeter sur moi. Il faut que je lui explique ma conduite, que je lui donne l'assurance que je n'ai point trempé dans l'infamie qui vient d'être commise. « Je ferai ce qu'elle voudra, mais je veux la voir, lui parler, pleurer avec elle. Vous voyez bien cependant que je suis désespéré de ce qui arrive. » Le duc montra au baron et à Bachelin un visage tellement bouleversé que ceux-ci, si prévenus qu'ils fussent contre le jeune homme, se sentirent émus. « Soit, dit Bachelin, monsieur le baron va avoir la bonté de vous tenir compagnie, monsieur le duc, et moi, j'irai demander à madame de Beaulieu s'il lui convient de céder à vos prières. » Laissant les deux cousins en tête à tête, Bachelin passa sur la terrasse et, discrètement, vint heurter à la porte du salon. Comme s'ils ne se fussent pas doutés du trouble violent qui bouleversait cette maison, dont ils étaient les hôtes, Philippe, Moulinet, Suzanne, Athénaïs et le marquis continuaient à causer paisiblement sur la terrasse. Le soleil baissait à l'horizon, rougissant d'une bande de pourpre, le ciel d'un bleu nuancé de vert. Un calme délicieux descendait, avec le soir, sur la vallée, dont le fond déjà s'emplissait d'ombre. La cloche de l'église de Pont-Aven tintait, claire et mélancolique, dans l'éloignement, annonçant pour le lendemain la messe des morts. Une paix si profonde enveloppait cette belle nature qu'Athénaïs en subit l'influence. Elle se sentit moins violemment aigrie, et, ayant triomphé si complètement de sa rivale, elle songea à la ménager désormais. En entrant dans le salon, Bachelin trouva les trois femmes en proie à une émotion inexprimable. Claire, en voyant le duc arriver à toute bride dans la cour, s'était dressée, stupéfaite et effarée. Elle essaya de parler. Elle ne put y parvenir, étendant seulement la main vers le nouvel arrivant, elle fut prise d'un bégaiement entrecoupé d'un rire nerveux. Elle parut devenir folle. La marquise et la baronne furent épouvantées. Elles s'élancèrent vers la jeune fille qui tremblait convulsivement et dont les lèvres étaient devenues toutes blanches. Elles craignirent de la voir tomber en syncope et voulurent appeler. D'un geste impérieux, Claire les arrêta. Puis, faisant un effort sur elle-même, elle parvint, entre ses dents serrées par la crise qui la secouait si durement, à faire passer ces mots. « Rien, personne, laissez-moi, je vais me remettre. » Elle s'assit. Une sueur glacée perla sur son front, aussitôt essuyée par la baronne. La marquise, arrachant tous ses fichus de laine, se dépouillant de son châle, en enveloppa sa fille qui grelottait. Un instant se passa ainsi, dans une horrible anxiété. Claire, le front penché sur sa poitrine, le dos appuyé à des coussins, restait immobile et comme assoupie. Ses yeux étincelants et fixés obstinément sur une rosace du tapis qu'il regardait sans voix, prouvaient seuls qu'elle ne dormait pas. Elle réfléchissait profondément, un pli profond s'était creusé entre ses deux sourcils sous l'effort d'une pensée absorbante. Au bout de quelques minutes, le sang remonta à ses joues. Un soupir dégonfla sa poitrine et, d'un brusque mouvement, elle rejeta les vêtements dont sa mère l'avait couverte. Le bruit de la porte vitrée, s'ouvrant pour laisser passer Bachelin, lui fit tourner la tête. Elle ne voulut pas avoir l'air de souffrir et sourit au notaire. Celui-ci, la figure consternée, marchant sur la pointe du pied, comme dans la chambre d'un malade, s'approcha de Madame de Beaulieu et, s'inclinant plus bas que de coutume, comme s'il avait honte de ce qu'il allait demander, « Madame la marquise, dit-il, pardonnez-moi, mais ce qui arrive est si extraordinaire. » « Je sais, interrompit la marquise avec brusquerie. Le duc est là. Eh bien ?»« Eh bien, madame, reprit le notaire un peu décontenancé. Malgré tout ce que nous avons pu lui dire, il insiste pour vous voir. » Voilà qui est étrangement hardi, s'écria la marquise en se dressant avec une vivacité qui ne lui était pas habituelle, et elle se dirigea vers la porte du salon. Où allez-vous, ma mère? Demanda Claire. Je vais le faire chasser comme il le mérite, répondit Madame de Beaulieu, rouge d'indignation. Claire resta une seconde silencieuse, se consultant comme si elle hésitait à prendre une grave résolution. Puis, hochant la tête, « Non, ma mère, dit-elle, il ne faut pas faire chasser le duc de Bligny, il faut le recevoir. »« Le recevoir ? » répéta la marquise avec stupeur, se demandant si, décidément, sa fille avait perdu la raison. « Oui, et lui faire bon visage. Pour rien au monde, je ne voudrais qu'il pût croire que j'ai souffert de son abandon. » « Être pleuré par une fille telle que moi, lui, il en serait trop fier. Tout plutôt que son insultante pitié. Non, recevez-le, ma mère. On peut bien lui ouvrir la porte, puisqu'on ne l'a pas fermée à sa fiancée. » « Mais que vas-tu faire ? » demanda Madame de Beaulieu, pleine d'inquiétude. « Me venger, » répondit Claire avec une effrayante expression de colère. Puis, se tournant vers Bachelin, « Soyez assez bon, lui dit-elle, pour prier le duc de passer sur la terrasse et d'attendre un instant. Vous l'introduirez quand je vous appellerai par la fenêtre. En même temps, veuillez m'envoyer M. d'Herblay. » La baronne et la marquise échangèrent un regard plein d'étonnement. Les raisons auxquelles obéissait Claire leur échappaient. Bachelin, plus perspicace, devinant que ses combinaisons étaient près de réussir, disparut avec la légèreté d'un jeune homme. Un instant après, Philippe entrait dans le salon. « Ma mère et toi, ma chère Sophie, éloignez-vous un peu, que je puisse causer seule avec M. Derblay. » Madame de Beaulieu et la baronne se retirèrent dans l'embrasure d'une fenêtre et, fort intriguées, attendirent le résultat de l'entretien. Philippe, très ému, comprenant que sa destinée se jouait en cette seconde, et d'ailleurs averti par un mot de Bachelin que la crise était près d'aboutir, restait immobile, le front baissé devant celle qu'il adorait. « Monsieur, » dit Claire, s'adressant à lui directement pour la première fois, « notre vieil ami, notre excellent conseil, M. Bachelin, a dit à ma mère que vous me faisiez l'honneur d'aspirer à ma main. » Sans répondre, Philippe s'inclina en signe d'assentiment. « Je vous crois galant homme, » poursuivit Mademoiselle de Beaulieu avec fermeté. « Je pense donc que, pour avoir formé de tels projets, vous saviez, comme tous ceux qui m'entourent, et depuis longtemps déjà peut-être, que le duc de Bligny s'était détourné de moi. « Oui, mademoiselle, je le savais, » articula Philippe avec peine, « et croyez bien que, même en ce moment, s'il dépendait de moi d'assurer votre bonheur en vous ramenant le duc, je n'hésiterais pas, fût-ce au prix de ma vie. « Je vous remercie, » dit Claire, « mais tout lien entre le duc de Bligny et moi est à jamais rompu. Et la preuve la plus certaine que j'en puisse donner, c'est que, si vous avez gardé les mêmes sentiments, je suis prête à vous tendre ma main. » En disant ces mots, la voix de Mademoiselle de Beaulieu faiblit, et Philippe les devina plutôt qu'il ne les entendit. En un instant, le jeune homme se rappela le jour où, le voyant triste et découragé, sa petite sœur lui avait dit en riant « Tu verras, ce sera elle-même qui viendra te demander de lui faire la faveur d'être son époux. » Ainsi, la prédiction de Suzanne s'était accomplie. L'enfant, éclairé par son affection, avait eu la prescience du bonheur de son frère. Il ne rêvait pas, tout était bien vrai. Claire elle-même lui tendait la main. Une joie immense descendit dans le cœur de Philippe et, prenant cette main charmante qu'il avait tant de fois désespéré de tenir dans la sienne, le jeune homme, sur le bout des doigts glacés, déposa le plus timide et le plus délicieux des baisers. « Il me reste une faveur à vous demander, monsieur, » reprit Claire. « Je désirerais que vous fissiez tout ce qu'il faudra pour laisser croire que nos paroles sont échangées depuis plusieurs jours. Je n'ai pas besoin de vous expliquer les raisons de cette supercherie. Elles sont nées de mon orgueil. Vous êtes, hélas, sans illusion sur l'état de mon cœur. Mais je puis vous assurer que vous aurez en moi une femme fidèle et loyale. Veuillez me quitter maintenant, mais ne vous écartez pas, je puis avoir besoin de vous. » Et, laissant Philippe s'éloigner, elle fit signe à Bachelin qu'il pouvait amener le duc. Le notaire avait très habilement occupé Bligny, dont il redoutait la fougue, pendant les quelques minutes qu'avait duré l'entretien de Mademoiselle de Beaulieu et de M. Derblay. Il venait seulement de l'ouvrir la porte donnant sur la terrasse quand Philippe sortit rayonnant du salon. La stupéfaction de Moulinet et d'Athénaïs fut immense en voyant arriver Gaston. Napoléon, attendant Grouchy et apercevant les avant-gardes de Blücher, ne fut pas plus bouleversé que le fut la fille de l'ancien juge au tribunal de commerce. Le duc à Beaulieu, en ce moment critique, c'était tout ce qui pouvait se présenter de plus dangereux pour ses combinaisons. Athénaïs fut saisie d'une angoisse poignante. Sûre de la victoire, allait-elle subir une désastreuse et humiliante défaite? Qu'allait-il résulter de la mise en présence de Gaston et de Claire? Les cartes étaient-elles assez brouillées pour qu'une réconciliation fût impossible? Ou bien, d'un seul regard, les deux fiancés allaient-ils reprendre possession l'un de l'autre et, dans une étreinte suprême, échanger le plus solennel et le plus irrémissible des serments? Moulinet, lui, fut profondément surpris, mais n'alla pas si loin que le clairvoyant esprit de sa fille. Il ne comprit pas comment le duc ne l'avait pas attendu à la Varenne et n'eut pas le moindre soupçon de ce qui l'amenait à Beaulieu. Il s'avança vers son futur gendre avec un aimable sourire, lui tendit la main et resta foudroyé par le coup d'œil que lui lança Gaston en passant devant lui sans même saluer Athénaïs. Cependant, il suivit le duc qui se dirigeait vers le salon. En un instant, la marquise et la baronne avaient improvisé une mise en scène. Et lorsque Bligny entra, il aperçut la marquise pelotonnée, comme d'habitude, au fond de sa bergère. La baronne, debout auprès de la cheminée, les mains croisées, pour qu'il ne prît pas fantaisie à Gaston de lui tendre une des siennes, comme il avait coutume de le faire. Mademoiselle de Beaulieu, assise entre sa mère et la baronne, tournant le dos au jour, afin que l'altération de ses traits fût moins visible. Ce fut l'admirable chevelure d'or de Claire qui attira tout d'abord les yeux du jeune homme. Il frémit malgré lui et, saisi par une violente émotion, il fut sur le point de courir à celle qu'il aimait si tendrement encore et de se jeter à ses pieds, quoi qu'il pût résulter de cette démonstration passionnée. Le regard calme et sévère de la marquise l'arrêta et, s'inclinant profondément devant celle qui lui avait servi de mère, « Madame la marquise, dit-il une voix entrecoupée, « ma chère tante, vous voyez mon trouble, mon chagrin, mes regrets. En arrivant à la Varenne, chez monsieur... » Le duc eut honte de prononcer le nom de Moulinet. « J'ai appris quelle démarche inqualifiable !» Mais monsieur le duc voulut interrompre l'ancien juge au tribunal de commerce, visiblement froissé. Le duc se tournant alors vers son futur beau-père avec une souveraine hauteur, procédé inconcevable, monsieur, et dont je tiens à déclarer bien haut que je ne suis pas complice. J'ai pu commettre bien des fautes, agir avec légèreté, avec ingratitude. Mais avoir autorisé une si outrageante conduite vis-à-vis des miens, non, cela, sur l'honneur, je ne l'ai pas fait. Une simple visite de politesse, murmura Moulinet, dominé par l'énergie du duc. Je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas. Interrompit le jeune homme avec un écrasant dédain. C'est là votre seule excuse. Mais Moulinet était trop infatué de lui-même pour se laisser plus longtemps malmener, même par un homme qu'il considérait comme étant d'une essence supérieure. Il prit un air digne et s'inclinant avec gravité. Si j'ai des torts, mon gendre, dit-il, je vous prie de me les faire connaître. Je suis prêt à les réparer. Mais en l'appelant « mon gendre », il porta au plus haut point l'irritation du jeune homme. Et, perdant toute mesure, le duc coupa la parole, cette fois définitivement, à l'ancien juge au tribunal de commerce, par un « Assez, monsieur !» cinglant comme un coup de cravache. Puis, osant, pour la première fois depuis qu'il était entré, regarder Claire qui restait imperturbablement assise, « Ma tante, je vous dois des explications, souffrez que je vous les donne. » « Claire, je ne sortirai pas d'ici sans que vous m'ayez pardonné. » À ces mots, qui lui étaient enfin personnellement adressés et qu'elle semblait attendre, Mademoiselle de Beaulieu se leva fièrement et regardant son fiancé avec une sérénité admirable. « Mais, duc, vous ne me devez pas d'explication, dit-elle tranquillement, et vous n'avez pas besoin de pardon. Vous vous mariez, m'a-t-on dit, avec la fille de monsieur. » Et dans ces seuls mots, Claire prodigua des trésors d'impertinence. « Vous aviez bien le droit de le faire, il me semble. N'étiez-vous pas libre, comme je l'étais moi-même ?» En entendant ces paroles, le duc se demanda s'il n'était pas le jouet d'un rêve. Il regarda Claire, la baronne et sa tante, et les vit sans émotion apparente, sans tristesse et sans colère. Il s'attendait à essuyer des larmes, et il ne trouvait que des sourires. Était-il donc possible que, pendant cette année qu'il avait si fatalement employée, Mademoiselle de Beaulieu se fût ainsi détachée de lui ? Votre fiancé est venu m'annoncer l'heureuse nouvelle, poursuivit Claire. Cela est fort bien et je ne veux pas être en reste avec vous. Faisant alors quelques pas sur la terrasse, elle adressa à Philippe un signe de la main. Dévoré par la curiosité, Athénaïs suivit hardiment le maître de forge. Et, en un instant, le salon se trouva rempli par tous les hôtes du château. « Il faut, messieurs, que je vous présente l'un à l'autre, » dit Mademoiselle de Beaulieu avec un sang-froid effrayant. Et, désignant le duc à Philippe, « Monsieur le duc de Bligny, mon cousin, » dit-elle. Puis, se tournant vers Gaston et le bravant du regard, « Duc, monsieur d'Herblay, mon fiancé. » Le tonnerre, en tombant sur le château, n'eut pas produit une commotion pareille à celle que ressentirent tous les spectateurs de cette scène. Le duc, écrasé, chancela. Athénaïs eut le vertige et son teint vermeil devint couleur de cendre. Le baron et la baronne échangèrent des regards pleins de surprise. Seuls Bachelin et Suzanne ne marquèrent aucun étonnement. Le notaire, parce qu'il avait sourdement travaillé à amener ce dénouement, Suzanne parce que, dans son adoration pour son frère, elle n'avait point douté que mademoiselle de Beaulieu ne finît par céder au mérite irrésistible de Philippe. Le duc montra que la pratique de la diplomatie ne lui avait pas été inutile. Il se remit promptement et, se composant une attitude irréprochable, il adressa à M. d'Herblay un gracieux sourire. « Recevez mes compliments, monsieur, dit-il d'une voix qui ne trembla pas trop. Vous épousez une femme dont bien peu de nous auraient été dignes. » Si terrassée qu'elle fut par la foudroyante riposte que lui avait adressée mademoiselle de Beaulieu, Athénaïs comprit qu'il fallait à tout prix faire bonne contenance. Elle s'avança à son tour et, regardant Claire avec attention, « Toutes mes félicitations, dit-elle, et à mi-voix, avec un perfide sourire, « C'est un mariage d'amour !» Mademoiselle de Beaulieu frémit et, brusquement, toute l'horreur de sa position lui apparut. L'homme qu'elle adorait était là, devant elle, et il allait partir avec sa rivale. En ce moment, la révélation inattendue qui venait de lui être faite, ayant dissipé sa colère, il causait à l'écart avec Athénaïs, lui tenant le bout des doigts, en riant avec l'abandon d'un homme heureux. Et elle, Claire, avait, dans un mouvement d'indomptable orgueil, décidé de sa vie, aliéné sa liberté. Elle venait de se promettre à un homme qu'elle ne pouvait pas aimer, car son cœur était plein du douloureux et cher souvenir d'un autre. Elle jeta sur le duc un regard d'angoisse mortelle. Elle fut sur le point de traverser le salon, de l'enlever aux coquetteries voulues et exagérées d'Athénaïs, et de lui dire toute la vérité. Mais elle le vit si calme, si indifférent, si léger, qu'un retour de colère et de fierté la sauva de sa faiblesse. Elle voulut désespérément ne pas paraître avoir été abandonnée. Elle sacrifia résolument tout son avenir à cette victoire d'amour-propre, et, enveloppant Bligny et Mademoiselle Moulinet dans le même coup d'œil triomphant, elle murmura « Je serai mariée avant eux !»